Bienvenue sur la chaîne Ambiance, Architecture, Urbanité, AAU.
Christelle Gramaglia, chercheuse à l'INRAE de Montpellier, présente un autre de ses terrains d'études, Fos-sur-Mer.
Alors, j'ai combien de temps pour vous parler de Fos-sur-Mer? Je ne sais pas. Allez, je vais essayer de pas... Donc moi, j'ai interprété le titre qui avait été prédonné à la journée, la mesure des milieux abîmés, comme de manière très très large, pas simplement la mesure au sens de métrologie, mais prendre la mesure du territoire sur lequel on vit, qui peut passer par d'autres opérations que la métrique. Donc j'ai une présentation un peu plus classique que ce matin, j'espère que ça ne va pas vous ennuyer. Je vais vous présenter grosso modo un petit peu l'enquête en insistant sur deux types de résultats. D'une, c'est cette figure de l'habitant attaché que j'ai voulu définir et qui tranche avec l'habitant qui nous est présenté dans les études, par exemple, sur la justice environnementale. Alors il en faut, c'est très utile, les études sur la justice environnementale. Simplement, ce type d'études tend à nous présenter les villes, les territoires pollués comme forcément des repoussoirs. Ce ne le sont pas, comme vous avez pu le voir à l'image. Vous le verrez aussi pour Fos-sur-Mer, c'est pas tout le temps le cas. Il y a des lieux comme ça de relégation. Mais en tout cas, moi, sur les territoires où j'ai travaillé, chaque fois, c'est des territoires qui génèrent des attachements très, très forts au sens où les gens ne veulent pas partir. Et José Matias Casteron s'est aussi confronté à cette problématique, c'est-à-dire qu'il s'est à la fois trouvé sous le feu du doyen de l'université qui contestait, qui remettait en cause ses résultats, et des habitants qui leur disaient « mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de publier des résultats, tu vas nous faire expulser. Nous, on veut rester là, on est dans une petite ville, on se connaît tous, il y a la mer, on a un mode de vie très agréable ». Même s'il y a des pollutions, tu vas nous faire perdre ça, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui est beaucoup plus... C'est aussi pour ça qu'on a mis la chanson de flamenco à la fin du film. C'était un petit peu musicalement représenter ces attachements à ce territoire-là si particulier, où il y a une population de mineurs qui est arrivée d'Andalousie, qui a créé qui s'est réenraciné dans ce territoire et qui a créé une forme de flamenco très originale. Bon, voilà, il n'est pas question de quitter ce territoire. Et pour Fos-sur-Mer, c'est un petit peu le cas. Donc, je vous présenterai mes résultats sur l'habitant attaché, qui, du coup, en étant attaché, c'est-à-dire ni piégé, ni dans le déni, ni aliéné, mais attentif et en même temps contraint de poursuivre ses activités du quotidien, ce qui peut conduire à certaines formes d'ajustement. Je les évoquerai. Et puis cet habitant attaché aussi, sur un territoire comme Fos-sur-Mer, il peut s'engager dans des dispositifs collectifs comme celui proposé par l'Institut éco-citoyen pour la connaissance des pollutions. Et pour le coup, là, eh bien, basculer dans un autre régime qui est une participation active à la mesure des pollutions sur ce territoire-là. Et j'essaye de montrer que ces deux formes d'engagement, hein, l'habitant attaché comme l'habitant producteur de contre-mesures, finalement, pratiquent une forme de care. De care que je n'ai pas appelé care spatial, mais care socio-écologique. Hop. Ça c'était le plan. Pardon, j'ai oublié que je devais... Il faut que je fasse un petit signe comme ça. Ça, c'était le plan, vous l'avez vu. La problématique, je vais passer rapidement, simplement pour vous dire que, vous le savez certainement, il y a beaucoup de recherches sur les mobilisations et la justice environnementale, et tant mieux. Mais en même temps, moi, ce qui me chagrinait, c'est qu'il y a très peu d'études sur les expériences ordinaires des pollutions. Et à tel point que, quand on s'intéresse un peu aux évaluations des risques qui sont faites sur ces territoires-là, on voit que les pratiques sociales, finalement, très souvent, les experts, ils se disent, tiens, oui, il y a de l'eau polluée, mais personne n'utilise sans véritablement aller vérifier si les gens ont des puits, s'ils prennent l'eau. Ça m'a quand même interrogée, parce qu'on peut regretter qu'il n'y ait pas assez d'études sur les expériences ordinaires, mais on se rend compte que ça a des effets immédiats sur, et très concrets sur l'évaluation des risques. Donc il y a des tas d'ignorances, je ne rentre pas sur cette question-là, qui sont de toute façon peu explicitées et discutées. Des conseils sanitaires qui sont jugés dérisoires ou jamais appliqués par les populations concernées parce qu'elles sont prohibitives. Et des contraintes, des coûts sociaux, des pollutions qui ne sont jamais comptabilisées. Donc moi, je suis rentrée vraiment par la pratique territoriale pour comprendre en quoi celles-ci peuvent constituer des expositions. Ben voilà, si vous habitez, si vous travaillez, si vous avez vos loisirs dans un territoire, et en plus, si vous pêchez, si vous cueillez des champignons, ben vous avez, vos pratiques vous exposent d'autant plus aux contaminants. En même temps, ces pratiques-là, quand elles sont empêchées ou qu'elles doivent subir des transformations pour continuer à s'exercer sur un territoire pollué, eh bien, elles peuvent nous informer sur le type de contraintes et de servitudes qui pèsent sur le territoire. Donc pour moi, ça renvoyait aux coûts sociaux qu'il fallait connaître. Et enfin, tous ces ajustements, en fait, rendent compte aussi d'une... Alors, ce n'est pas du tout de la provocation, hein, mais je pense que les habitants de ces territoires qui sont attachés, qui ne veulent pas partir, du fait de la contrainte de la pollution, des risques, des incertitudes, tous les doutes hein, sur la fiabilité de l'air qu'on respire, du sol sur lequel on marche ou autre, conduisent à des ajustements pour justement pouvoir maintenir ces pratiques sociales et territoriales que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'elles sont constitutives d'un mode de vie elles sont très importantes pour les personnes. Et sur ces pratiques-là, on voit que s'enchâssent des modes de sociabilité bien, bien particuliers. Et c'est ça aussi, c'est de ces modes de sociabilité que les gens veulent prendre soin en même temps qu'ils prennent soin de leurs environnements. J'y reviendrai. Alors, le territoire, en fait, bon voilà, j'ai travaillé sur plusieurs terrains, la Sierra Minera de Cartagena, vous l'avez vu, et là, j'ai essentiellement parlé de Fos-sur-Mer, qui est un territoire là, qui est grossièrement brossé sur la petite carte à droite, où j'ai fait des entretiens, j'ai fait des parcours commentés avec des habitants sur plusieurs années en y revenant, et c'est un terrain que je continue d'investiguer. Voilà en gros la ZIP de Fos, hein, la zone industrialo-portuaire de Fos. C'est une zone industrialo-portuaire qui a été créée à la fin des années 60 sous décision conjointe de la DATAR qui voulait un petit peu rééquilibrer le territoire et du patronat marseillais qui souhaitait trouver d'autres activités après la décolonisation. Donc c'est une zone d'à peu près 10 000 hectares qui est bordée par deux communes, Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône, où on trouve en gros 25 000 habitants. En termes d'installation, on y trouve à peu près 20 sites Céveso, dont de nombreux sites Céveso seuil haut, principalement des usines métallurgiques et pétrochimiques, ArcelorMittal, SO, Kemwan, de la chimie, voilà. Là, vous avez un aperçu... c'est pas ma souris, donc non. Vous avez un aperçu des habitations et juste après, vous avez une route nationale 2x2 voies et puis vous avez les premiers réservoirs pétroliers d'Esso et vous apercevez l'aciérie d'ArcelorMittal. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, finalement, les panaches qui sortent des cheminées sont tout à fait visibles pour les habitants. Donc voilà, les résultats sur lesquels je voulais appuyer, en fait, c'est cette idée que les pollutions ne sont pas simplement invisibles. Bien sûr qu'à l'échelle moléculaire, les pollutions sont invisibles, mais sur ces territoires-là, territoires productifs, eh bien, elles tendent à s'accumuler et acquérir sous diverses formes, en fait, une tangibilité. Ça, c'est tous les terrains à peu près où j'ai travaillé ces dernières années. Vous avez Portmán en Espagne, dont on a vu un petit aperçu. C'est un lac de drainage mini-acide qui est devant l'ancienne cité minière. Vous avez Viviers en Aveyron, où j'ai travaillé. Vous avez des terrils et des crassiers qui sont bien là. Fos-sur-Mer, encore une cheminée. Salindres dans le Gard, où vous avez des émanations aussi qui sortent des cheminées. Et Estarreja au Portugal, où vous avez sur une dizaine de mètres des concrétions comme ça de minéraux avec des métaux à l'intérieur. C'est grand comme plusieurs stades de football. Et ça pourrait ressembler à une colline tout à fait normale, sauf que quand vous êtes au-dessus, il y a très peu de végétation, il n'y a rien qui pousse. Donc la pollution, elle saute aux yeux des habitants qui habitent ces territoires. Dans les entretiens, finalement, c'est essentiellement pour Fos-sur-Mer. Hein. On retrouve des évocations de panaches rouges, jaunes, colorées, énormes, de fumée blanche, noire, qui arrivent 2 à 3 fois par heure, souvent la nuit, le soir, qui sont dus, selon les habitants, à des problèmes de filtre, des dégazages ou des fois des sources bien identifiées. Et tout cela génère des ressentis d'impuissance, de choc, d'impression, et des habitants qui, d'une, partagent sur les réseaux sociaux des photos de ces panaches, et deux, voudraient bien avoir les moyens de doser pour savoir ce à quoi ils sont exposés. Et dans une petite enquête quantitative, ça marche presque. On a fait une petite enquête quantitative avec une zone témoin située à une quarantaine de kilomètres. Et vous voyez que ce qui est des odeurs à Port-Saint-Louis-du-Rhône et dans sa zone témoin, et Fos-sur-Mer, pardon, vous avez une grande différence, hein, à la fois pour les poussières et pour les odeurs. Donc ces pollutions invisibles dont on nous dit que finalement les habitants ne les perçoivent pas et ne sont pas en capacité d'en rendre compte, on voit bien qu'ils ont une expérience, ce que je disais tout à l'heure, une forme de saturation sensorielle qui les rend tout à fait capables de parler de ce dont ils vivent. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que je me suis dit, mais finalement, quand on insiste sur les pollutions invisibles, eh bien, c'est qu'on choisit de disqualifier les expériences sensibles immédiatement et on accentue cette déconnexion entre mesure et expérience qui est totalement préjudiciable pour bien comprendre les pollutions. Donc j'ai essayé de montrer en quoi les pollutions, elles ne sont pas simplement invisibles, c'est un peu trop rapide. Et trop insister sur leur invisibilité, c'est finalement chaque fois disqualifier les points de vue habitants sur ce qui se passe dans ces territoires. Hop. Oui, encore. D'autant que les pollutions, elles se manifestent directement par des fumées ou autres, mais elles peuvent aussi se manifester sous forme de mortalité. Là, à Portman, des oiseaux morts quand ils se baignent dans ces lacs acides. À Salindres, des poissons morts. À Viviez aussi. Et malgré tout, je le disais, c'est des territoires. Là, vous avez le golfe de Fos qui génère encore, qui entretiennent, qui rendent possible des attachements très, très forts qui perdurent dans le temps. Là, vous avez une course traditionnelle à l'apartheid dans le golfe de Fos. Je voulais insister avec cette. Et puis là-haut, vous avez un monsieur à Estareja qui c'est très marécageux. Il y a des canaux dont on sait que les sédiments sont contaminés au mercure et au nitrobenzène. Eh bien, il y a quand même des gens qui nagent dans ces canaux. Et on comprend bien que les gens. On ne peut pas habiter ces territoires sans s'empêcher de profiter des aménités qu'ils procurent. À Portman, on ne peut pas empêcher les gens, quand il fait 45 degrés l'été, d'aller à la plage. J'ai rencontré une personne qui habite Portman, par exemple, qui a dit « Moi, j'ai construit une piscine dans mon jardin pour éviter que mes enfants aillent se baigner à la mer, où le sable, finalement, est essentiellement constitué de résidus miniers. Sauf que les résidus miniers, avec le vent, il les retrouve au fond de sa piscine. Donc, il n'y a pas moyen d'échapper à ces contaminants. Et en même temps, on peut comprendre que là, vous avez aussi à côté de Portman une petite plage avec des cabanons où les gens viennent faire des grillades l'été. On comprend qu'ils n'ont pas envie et peut-être n'y gagneraient-ils pas aller en périphérie de Madrid ou autre, dans une ville où vous avez aussi du trafic automobile. Enfin, il y a des choses associées, il y a des agréments comme ça, des attraits associés à ces territoires qui perdurent. Et ça, c'était important. Et du coup, je rebondissais sur une phrase qui avait été prononcée par le maire de Viviez qui me disait « Mais on n'est pas des zombies ». Et je trouve que cette image du zombie, pour moi, elle était très, très forte. Et elle faisait écho à ce refus et du sujet complètement libre, indépendant, capable de faire ses choix comme un homo economicus, et à contrario, eh bien, ce sujet aliéné qui serait piégé dans ces territoires pollués, qui ne pourrait pas en partir et qui même se rendrait pas compte vraiment des pollutions qu'il endure. J'ai essayé de trouver de définir cette figure moyenne qui serait celle de l'habitant attaché, qu'il sait qu'il habite un territoire pollué et qui malgré tout y reste et peut du coup s'engager dans des actions qui relèvent du care. Alors je passe sur quelques témoignages qui vous donnent une idée de comment les habitants vivent ce territoire. Ça c'est un docker de Port-Saint-Louis qui nous dit bah, y a de la pollution mais il y a aussi du travail. Heureusement, ça n'a jamais tourné à plus de 50% de ses capacités. Il nous dit aussi que notre liberté s'en va. Là, il fait écho au plan de prévention des risques qui l'empêche d'aller dans son cabanon de chasse à l'embouchure du Rhône. Il fait référence à la réglementation sur les espaces protégés qui l'empêche d'aller cueillir des asperges et des champignons. Et lui, il dit, finalement, on bousille notre vie ici avec les usines, ok, c'est presque quelque chose qu'il a accepté, mais dont il veut continuer à profiter, c'est bien son environnement. Et ce qui m'a frappé à Fos-sur-Mer, c'est très souvent l'emploi de la nature. On est ici, on n'a pas de touristes ou très peu, on est entre les usines, et voilà, on peut aller s'ensauvager dans ces espaces interstitiels, là, entre les usines, parce que finalement. Sur les 10 000 hectares qui étaient promis à l'industrialisation, il y en a simplement 20% qui ont été effectivement industrialisés. Et c'est une des caractéristiques de la ZIP de Fos, c'est que les usines sont très, très étalées et déconnectées les unes des autres. Donc au milieu, vous avez des chevaux et des marais où il peut y avoir des pratiques de chasse, de pêche, cueillette, randonnée, voilà, sportif. Donc je vous donne un autre exemple. Là, c'est à Fos-sur-Mer. C'est un monsieur qui est un ornithologue amateur, qui est ouvrier dans la pétrochimie et qui est arrivé il y a une dizaine d'années à Fos-sur-Mer et qui nous dit « Au début, je n'étais pas particulièrement attaché. » C'est lui qui a employé le mot. « Mais aujourd'hui, oui. Quand je vois toutes les autres villes des environs, Martigues, Port-de-Bouc, tout le pourtour là, moi, je pense qu'à Fos, on a un cadre de vie très agréable. » Surtout quand on voit l'étang, il avait insisté pour m'amener en vélo voir l'étang où il observait les martins pêcheurs. Et il dit, j'ai changé mes centres d'intérêt, je me suis rapproché de la nature, de la mer, et maintenant je trouve un vif intérêt à rester ici. Donc, diapo suivante, c'est un autre témoignage de la même personne qui nous dit, ArcelorMittal, ça fait des années qu'ils envoient de gros nuages de poussière rouge. Tout se dépose un petit peu partout dans le secteur, dans les fonds qui sont pollués. Il y a des métaux, des choses comme ça. Et d'ailleurs, la plage de Fos, c'est un secteur que j'évite de fréquenter. Pour la pêche, c'est pareil. Je m'éloigne. Je ne vais pas au bord de mer, là, tout de suite, où on trouve pas mal de cochonneries. Et il rajoute, quand il y a un peu plus tard dans l'entretien, quand il y a la tramontane, une odeur de cramé qui rentre dans les maisons, on ferme, c'est horrible. Et ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment cet habitant attaché, il était à la fois capable de décrire cette situation de saturation sensorielle désagréable. Monsieur, là, il a une asthme chronique, donc il n'est pas du tout ignorant de ce qu'il vit. Et en même temps, il est très attaché. Et en même temps, il voit dans ce site-là l'occasion de s'adonner à des pratiques naturalistes comme l'ornithologie amateur. Et pour moi, ça, c'est typique de ce que sont ces habitants attachés, que je ne peux pas renvoyer à du déni ou, comme on me l'a dit lors d'une présentation, de la dissonance cognitive. Pour moi, je serais très, très mal à l'aise d'employer ce type de terme. Si on est un habitant attaché, c'est « et pas « et où ». On est dans la connaissance de ce qui se passe sur ce territoire et en même temps des pratiques qui perdurent. Et qui se développe. Donc, quelques pistes de réflexion sur lesquelles j'ai été amenée à travailler. Bien, déjà, d'envisager les pollutions comme des matérialités proliférantes, en vraiment décentrant le regard, désanthropocentrer un petit peu le regard sur les pollutions pour regarder ce que faisaient ces matérialités proliférantes, intrusives et visqueuses, avec une forme d'agentivité relationnelle qui peut venir perturber l'habité. Tout en révélant des dépendances et des perméabilités entre milieu et organisme. je le disais, bah, cette figure de l'habitant attaché qui n'est ni un sujet libre, ni un zombie, ni piégé, ni dans le déni, ni l'apathie. Au contraire, qui révèle dans sa façon de se présenter et de parler de ses milieux, eh bien, un encastrement dans des relations denses, plus qu'humaines, qui l'obligent. Et moi, l'entrée par le Caire, si vous voulez, je ne suis pas rentrée directement par le Caire et toute la littérature fort passionnante qui a été mentionnée ce matin. J'y suis arrivée plutôt par la théorie de l'acteur réseau et la question des attachements. Je pense aux travaux de Antoine Aignon, par exemple, sur les attachements, qui renvoie pour moi à des formes d'engagement individuel ou collectif attentionné qui relèvent de ce qu'on pourrait caractériser comme un care socio-écologique. Et ce qui m'a importé dans ce travail-là, c'est justement de penser les altervies et les nouvelles socialités chimiques pour faire référence aux travaux de l'historienne canadienne Michelle Murphy, qui montre qu'en fait, la prolifération de ces matérialités produit de nouvelles connexions et donc de nouvelles relations qu'il s'agit d'étudier. Et plutôt que d'avoir des approches un peu victimisantes, elle s'intéresse aux causes de cette prolifération. Et moi, ce qui m'a intéressée, c'est vraiment de voir en quoi ces matérialités qui intrusives, eh bien, transforment aussi les pratiques sociales sur ces territoires-là. Donc, dans ces territoires, du fait des pratiques chasse, pêche ou autre, vous avez des tas de pratiques qui relèvent du stewardship ou du soin un petit peu classique. Hein. Les chasseurs, ils entretiennent les chemins, les marais, ils peuvent brûler des broussailles. Alors, ça provoque des tensions avec les environnementalistes, mais ils font ce travail-là. Et puis, j'ai rencontré tout un tas d'acteurs aussi qui se considèrent comme les gardiens de leur territoire. Je pense en particulier à un ancien gendarme qui, à la fois, une fois à la retraite, a décidé qu'il allait être une sorte de policier de l'environnement local. Il a équipé sa voiture d'un gyrophare et il a mis des autocollants qui racontaient son activité. Hein, il n'a pas utilisé le terme police, surveillance de l'environnement. Et il donne son numéro et dès qu'il y a des déchets déposés ou quelque chose qui est repéré, il va et il le transporte à tel point qu'il avait ramassé des centaines de vieilles fusées de détresse sur le littoral hein, quand les bateaux doivent réglementairement s'équiper de fusées de détresse. Et puis bien souvent, quand elles arrivent à terme, eh bien, les gens les jettent. Lui, il les récoltait et il s'est installé dans un vieux domaine agricole et puis il stocke les déchets chez lui comme ça. À tel point qu'il a eu tellement d'explosifs qu'il a été obligé de faire une déclaration à la DREAL parce qu'il passait dans la classe installation classée soumise à déclaration. Et tout son travail. Alors, il ne rentrait pas dans les catégories puisqu'il n'était pas producteur, exploitant ni rien. Il a obtenu une autorisation spéciale et il élimine ses produits artificiers via des filières locales. Et voilà, enfin, c'est quelqu'un qui me disait, ben moi, j'ai failli me noyer par deux fois. Enfin, en fait, j'ai anticipé. J'ai oublié qu'il fallait changer de diapo. Donc, hop, là, c'est le territoire de chasse. Hein, je vous disais, on a de grands espaces où les gens peuvent s'adonner à leur loisir. Et donc, la diapo qui va avec le témoignage du monsieur. Ah non, c'est la mère. Ouais, voilà. Lui, c'est quelqu'un qui a failli se noyer deux fois et qui dit qu'il est redevable et qui protège le littoral justement parce que la mer, il lui doit quelque chose. Il dit les plaisanciers, ils balancent tout, ils profitent de la mer. Et en fait, à la mer, il faut lui rendre. Faut dire, tu me portes tout ça, et ben moi, je vais te nettoyer, je vais te respecter. Et donc ça, voilà, c'est une forme de care un peu. Cette personne-là, quand je l'ai rencontrée, j'aurais pu me dire, bah, c'est un original sur ce territoire-là. Et en même temps, je pense qu'il est révélateur de tout un tas de pratiques qui relèvent de ce care. Et je passe à la diapo suivante, qui relève de l'autre partie de mon travail, qui n'est pas simplement ces expériences et ces pratiques en lien avec les pollutions, c'est d'autres... d'autres formes d'engagement sur les métrologies scientifiques et citoyennes qui se sont développées dans le territoire de Fos au moment où l'Institut éco-citoyen... L'Institut éco-citoyen pour la connaissance des pollutions s'est créé dans les années, à la fin des années 2000. En fait, il y a eu un projet d'installation d'un incinérateur d'ordures ménagères dans la zone industrialo-portuaire de Fos, qui était imposée par la ville de Marseille dans une commune qui n'en voulait pas. Et les élus locaux ayant été obligés d'accepter cet incinérateur ont décidé, sous la pression de la population, eh bien d'octroyer un demi-million d'euros en fait, à la création d'un organisme scientifique civique avec l'Université de Marseille et puis des habitants pour mener des recherches sur la pollution, les recherches dont ils estimaient qu'elles n'étaient pas faites sur ce territoire-là par les services de l'État et les autres scientifiques. Donc c'est vraiment l'idée de produire les savoirs qui manquent, qui font défaut au territoire et dont le territoire a besoin, et de l'ancrer cette connaissance dans le territoire. Donc l'Institut, il fonctionne sur à peu près trois piliers, avec un personnel scientifique permanent, propre, et un conseil scientifique, un réseau de volontaires pour l'observation de l'environnement, et un conseil d'administration collégial où officient les activistes des associations du collectif anti-incinération et des élus et des médecins et voilà tout un tas d'acteurs du territoire qui collectent des questionnements, qui vont les transmettre au personnel scientifique, qui lui-même va traduire ça en protocole qui va être implémenté avec des habitants. Donc je passe peut-être vite sur les motivations. On retrouve pourquoi les gens participent au réseau des volontaires, à la fois par curiosité, à la fois parce qu'ils ne veulent pas rester les mains dans les poches à se plaindre, ils veulent faire quelque chose, protéger les écosystèmes, les salins, les artémies, qui nourrissent les flamants roses et qui nous fournissent aussi l'oxygène, partager ses connaissances en disant bah, « nous, on le pratique, ce golfe de Fos, donc on veut mettre à disposition nos connaissances ». Et surtout, on veut pouvoir avoir des données pour aller demander des comptes aux industriels. C'est à peu près les cinq motifs principaux. On verra peut-être une petite différence avec les personnes qui participent au réseau métrologique présenté par Gwen tout à l'heure. C'est que... Gwendoline, pardon. C'est que... en termes de recrutement, bon, c'est des gens qui donc les villes de Fos-sur-Mer, pour Saint-Louis-du-Rhône, c'est des villes ouvrières. Donc le recrutement se fait dans ces populations-là, qui ne sont pas dans une démarche environnementaliste et de connaissances pures, mais qui ont, c'est encore une fois cet habitant attaché qui va vouloir partager ses connaissances, faire quelque chose pour son territoire. Je pense que j'ai encore 5 minutes. Oui, ok. Donc, diapo suivante, je vais rapidement vous présenter deux expérimentations participatives qui ont été menées par cet institut. Une première porte sur la qualité de l'air et elle a permis de définir une nouvelle sentinelle pour ce territoire-là, pour connaître la qualité de l'air. Il faut savoir que les industriels recourent notamment, comme Atmosud ici, à des préleveurs réglementaires, puis des capteurs plus ponctuels qui peuvent installer sur le territoire. Mais en fait, on a des points de prélèvement quand même assez réduits. À Fos-sur-Mer, vous en avez deux. À Port-Saint-Louis, vous en avez un. Donc c'est une station ou deux stations ou trois stations, si on compte pour le territoire. À cela s'ajoutent les mesures en sortie de cheminée que font les industriels eux-mêmes en autocontrôle sur leurs installations. Et puis, ça ne se voit pas très bien, mais là, la petite boîte en bois que vous voyez avec des graminées qui poussent dans des pots, c'est aussi une station qui est utilisée pour la mesure notamment des dioxines. On peut pas, c'est difficile de mesurer les dioxines dans les sols ou autres, sauf si c'est des quantités énormes. Donc, ils essayent de recourir à des bioindicateurs. Et donc là, une fois par mois, ils installent des petits pots avec des graminées, puis ils vont les récupérer, ils fauchent, ils analysent. Mais en fait, que racontent ces plantes-là ? C'est simplement l'exposition du mois d'exposition. Et ça, c'était vraiment un problème pour l'Institut éco-citoyen qui a voulu trouver des sentinelles qui soient là en permanence sur le territoire, suffisamment faciles d'accès, distribuées pour pouvoir produire des cartographies globales du territoire. Et donc, ils se sont intéressés au lichen. La bioindication lichénique, c'est quelque chose qui est normé aujourd'hui par des normes ISO, qui est reconnu pour la surveillance de la qualité de l'air, même si c'est assez peu utilisé finalement, sauf par des associations. Et donc là, vous avez des lichens qui sont plus polluo-résistants, comme Xanthoria parietina que vous voyez en haut, et puis des lichens qui sont beaucoup plus polluo-sensibles, comme Ramalina farinacea. Et donc, l'Institut Éco-Citoyen a formé des volontaires et les a un petit peu distribués sur tout le territoire et une zone témoin pour essayer d'établir les cartographies que j'évoquais tout à l'heure. Et ça donne des choses comme ça. Enfin, il y a d'autres cartographies associées à des indices de distribution des organismes pour mesurer la biodiversité. Et ce qu'on voit, c'est tout de suite eh bien, que dans la station industrielle, vous avez essentiellement de la Xanthoria parietina, alors que dans des stations rurales, eh bien, vous avez d'autres espèces. Et là, vous avez une cartographie à droite hein, qui est un peu plus complexe que les cartographies. Vous avez simplement le panache et puis les vents dominants. Là, vous avez ce qu'on appelle, on utilise pour le nucléaire, une cartographie en tache de léopard, où c'est bien plus compliqué de mesurer les pollutions. Diapo d'après, c'est le même processus a été reproduit pour la qualité du milieu marin. Et là, la question s'est posée de savoir quelles sentinelles on utilise, sachant que l'IFREMER, qui est l'Institut technique de la mer agréé pour la surveillance des côtes, utilise depuis les années 1970 des moules. C'est un programme international, hein, Muscle Watch. Et donc, pareil, tous les deux mois, ils immergent des poches avec des moules, ils vont les chercher, ils les analysent. Et c'est une surveillance très, très efficace, à large spectre, sur tout le littoral. Mais finalement, qu'est-ce que ça nous raconte de ce qui se passe sur le golfe de Fos ? Pas grand-chose, parce que selon les mesures IFREMER, finalement, le port de Toulon, les étangs de Bages, Fos-sur-Mer, c'est à peu près la même chose, si ce n'est mieux. Et donc, on se rend compte que ce qu'on voit, c'est un suivi qui est très utile sur l'année des pollutions, mais on ne sait rien sur les cumuls de contaminants sur le temps long des faibles doses de ce territoire qui, depuis les années 70, est un territoire hautement productif où il y a des tas d'industries qui rejettent des tas de contaminants qui se retrouvent dans le milieu marin. Alors, les industriels, eux, ils ont utilisé des turbojuvéniles. Le problème, c'est que les turbojuvéniles, par définition, ils n'ont pas eu le temps non plus de bien grandir et d'accumuler les pollutions. Donc ça, c'est un bioindicateur, une sentinelle qui a été tout de suite récusée par les habitants lors des réunions publiques autour du suivi de l'incinérateur. Et l'Institut, quand ça a été à son tour de choisir sa propre espèce, s'est tourné vers l'Université de Marseille, qui lui a suggéré de choisir le saran, ce petit mérou là, que vous apercevez. Sauf que là, qu'est-ce qui s'est passé ? Les pêcheurs n'étaient pas d'accord parce qu'ils se sont dit « Non mais attendez, on aime bien ce poisson. Si vous découvrez qu'il est complètement contaminé, on ne va plus pouvoir le pêcher. » Et déjà, on nous a interdit dans l'embouchure du Rhône la pêche. Enfin bon, pas trop. Et il y a un autre pêcheur qui a renchéri en disant « Mais finalement, vous n'allez pas pouvoir faire cette cartographie globale du golfe de Fos parce que ce saran, il aime que les fonds rocheux. Donc, toute la partie à l'embouchure du Rhône, vous n'allez pas pouvoir faire des mesures parce que c'est des fonds sableux, vaseux, et donc cette espèce n'est pas appropriée. Et c'est ce pêcheur que vous apercevez en premier plan en bas, Jacques Carle, qui a proposé le congre, qui est une espèce finalement mal aimée parce qu'il détruit les filets des pêcheurs professionnels. Il a pour avantage d'avoir un mode de vie un peu comme l'anguille. Hein. Il reste 10 ans près des côtes. On ne sait pas trop pourquoi. Après, il subit des métamorphoses et puis il va se reproduire dans la mer des Sargasses. Mais en tout cas, il reste 10 ans dans un trou. C'est un poisson particulièrement casanier et qui donc se révèle être une sentinelle particulièrement intéressante parce qu'il peut rendre compte de qu'est-ce qui se passe sur ce territoire. Et en tête de chaîne alimentaire parce que c'est un carnassier aussi. Alors que la moule, vous voyez, c'est un filtreur mais qui est au bas des chaînes. Les résultats avec ce travail-là ont permis de montrer qu'il y avait des points chauds de contamination, notamment au mercure, Mais il a permis d'identifier d'autres produits comme les sous-produits de chloration qui sont utilisés en grande quantité par les industriels sans être surveillés. 5 spécimens sur 24 étaient au-dessus des seuils réglementaires pour le mercure. Et je conclue. Donc la diapo, voilà. Ce qui m'a intéressée dans la pratique de l'Institut, c'est ce que je vous disais, c'est que dans toute autre... Enfin, je ne l'ai pas dit aussi explicitement, mais dans toute autre configuration, en fait, l'opposition des pêcheurs à dire bah non, le sarran, ce n'est pas un bon indicateur. Le sarran ne peut pas être choisi parce qu'il risque d'empêcher nos pratiques de pêche auxquelles on est particulièrement attaché. Ça aurait été rejeté. Hein. Les scientifiques, par définition, ils veulent s'isoler des pressions du monde extérieur, éviter tout ce qui pourrait relever de l'opinion ou autre. Et là, dans le cadre de l'Institut éco-citoyen, finalement, il a été décidé d'attendre, d'étudier la proposition des pêcheurs et de tenter le coup, quoi. Et ce qui nous a intéressé avec mon collègue François Mélard, on a écrit un article là-dessus, c'est de voir comment ce tâtonnement collectif a été organisé ou a pu prendre place à l'Institut éco-citoyen et donné à un protocole qui est co-construit. Au départ, le protocole sur les congres, il était très peu participatif. Les pêcheurs devaient prêter leur bateau et puis c'est tout. Et au final, on se rend compte qu'ils ont eux-mêmes complètement changé le type de sentinelle. Et ils ont transformé le protocole. Et pour moi, ça relève vraiment de quelque chose qui est de l'ordre de la co-construction et qui répond bien aux enjeux et aux problèmes peut-être de l'anthropocène où on ne peut pas se fier aux seuls experts et à leurs préleveurs et capteurs pour comprendre ce qui se passe dans les territoires en maintenant et en accentuant cette déconnexion totale entre mesure et perception. Et donc là, on a pu produire une cartographie précise des pollutions de l'air et des pollutions de l'eau avec l'identification de points chauds qui n'existaient pas avant. On a pu identifier des faiblesses et des lacunes dans la surveillance réglementaire. Il y a eu de nouvelles idées pour des recherches participatives, notamment sur les produits de sous-chloration qui ont été initiés. Et puis des développements, je n'ai pas le temps de m'apesantir sur ce point-là, mais ce que j'ai appelé des relations socio-écologiques, puisque les gens du territoire qui ne voyaient pas les lichens, qui ne s'intéressaient pas ou qui n'aimaient pas les congres, tout d'un coup, dans le cadre de ces expérimentations, on presque compris que leur destin était lié, quoi, qu'ils étaient pareillement touchés par les pollutions et que c'est collectivement, y compris avec ces espèces non humaines, qu'on allait pouvoir produire de nouvelles connaissances, reconnecter peut-être les métrologies et les expériences. Donc pour moi, le care, finalement, ce care de l'habitant attaché ou ce care de l'habitant producteur de contre-mesures, il aboutit à quelque chose qui est de l'ordre de la science située. C'est une science qui fait attention aux relations, qui n'est pas là pour se faire à l'encontre des intérêts des pêcheurs, parce qu'il faudrait se détacher des intérêts vulgaires, mais au contraire, qui va composer avec les intérêts des pêcheurs pour produire une science qui soit, elle aussi, attentionnée, responsable. Et pour moi, c'est science située au sens de Donna Haraway, hein, une science qui est ancrée dans un territoire et en même temps qui donne la voix, qui n'écrase pas les points de vue subalternes, humains ou non humains. Je vais m'arrêter là. Je monte juste la dernière diapo, si ça vous intéresse d'en savoir plus. Donc, il y a un numéro spécial de la revue Rive méditerranéenne qui est sorti en 2020 avec des articles de collègues très différents, des historiens notamment. En février 2023, il y a normalement le livre tiré de mon habilitation à diriger des recherches qui va sortir aux presses de l'École des Mines. Et puis, sur Fos-sur-Mer en particulier, j'ai travaillé avec des historiens pour mettre en place un web documentaire un petit peu sur ce territoire-là, avec une vue un petit peu plus longue, parce que si on regarde les temps de Berre, eh bien, on a une histoire industrielle qui est un peu plus profonde. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. J'avais une question qui était parallèle à celle qui a été posée tout à l'heure sur l'exemple espagnol. C'est celle de quelle réaction des pouvoirs publics aux mesures qui sont faites, etc. Parce que là, on n'est pas dans le cas d'un jeu de quilles et c'est quelque chose de plus négocié. Et est-ce que ce que Céline Topsu dit à propos du nucléaire, d'un gouvernement de la critique, peut s'appliquer dans ce cas-là ? Enfin, voilà, j'anticipe un petit peu, mais est-ce que finalement, ça crée un espace de véritable négociation ou pas ?
C'est contrasté. En fait, si on regarde la qualité de l'air, les suivis Leckeny, comme je le disais, c'est normé par des normes ISO. Donc, c'est un peu compliqué de les retoquer. Et on voit une forme d'émulation à l'envers qui s'est passée entre Atmosud et l'Institut éco-citoyen, puisque l'Institut éco-citoyen, qui est une association loi 1901, c'est la première équipée, par exemple, d'un compteur de particules. C'est un truc très high-tech et très cher. Et les associations, les ASCA n'avaient pas obligation ou ça ne rentrait pas dans leur protocole. Depuis, l'ASCA Atmosud s'est équipée et travaille maintenant via des thèses ou autres avec l'Institut éco-citoyen pour améliorer justement la connaissance des pollutions atmosphériques. Sur le milieu marin, c'est complètement différent. Je vous parlais tout à l'heure des 5 spécimens contaminés au mercure. Là, les services de l'État ont opposé une fin de non-recevoir en disant 5 spécimens, non, il en fallait plus, mais on ne sait pas vraiment combien. Et il n'y a pas vraiment de logique parce que si on regarde la crise des PCB du Rhône qui a démarré dans les années 2005-2007, c'est 2 brèmes, 2 poissons contaminés du Rhône qui ont déclenché toute la crise. Là, 5 poissons contaminés, ça n'a déclenché aucune crise. Au contraire, les services de l'État ont tout fait pour normaliser la situation. Alors, il y a des enjeux de protection des pêcheries aussi qui rentrent en ligne de compte. Il y a d'autres arbitrages sur la qualité de l'eau qui n'existent pas peut-être sur la qualité de l'air. Mais en tout cas, l'Institut éco-citoyen sur le territoire a connu des moments un petit peu plus compliqués avec la métropolisation notamment, mais est en train finalement de parvenir à asseoir sa légitimité par d'autres territoires. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019 après l'accident de Lubrizol à Nantes ? Non, pardon, pas Nantes. Rouen, tu m'as parlé de Nantes tout à l'heure. À Rouen, il y a eu des mesures de l'État qui ont dit tout va bien, vous inquiétez pas, les fumées. Et les habitants du Brizol sont allés chercher l'Institut éco-citoyen pour produire de la mesure. Aujourd'hui, dans la vallée de l'Arve, qui n'est pas très loin d'ici, un collectif d'élus est allé chercher l'Institut éco-citoyen et il y a des tas de territoires, 3-4 au moins en France, qui sont en train de se dire que les services de l'État et les mesures normées ne répondent pas aux besoins des territoires et aux besoins démocratiques, de contrôle démocratique de l'activité industrielle notamment, et qu'on a besoin de produire de tiers lieux de la connaissance. Donc si vous voulez, l'Institut éco-citoyen, il s'est placé sur un niveau d'exigence scientifique très important, en pensant que la preuve en elle seule suffirait à renverser un peu les arbitrages sur les territoires. Ça n'a pas été le cas, mais c'est en train de se jouer politiquement par cet essaimage que j'évoquais, parce que le territoire de la ZIB de Fos-sur-Mer n'est pas le seul territoire qui estime qu'il y a beaucoup d'ignorance malencontreuse pour la gestion des pollutions dans ces territoires-là. Voilà.
Je voulais te poser une question sur la résilience. Parce que en t'écoutant raconter ces histoires de comment les citoyens, ils habitent de territoires contaminés, pollués, ils mettent en place toute une série de comportements qui leur permet, malgré un territoire abîmé, de continuer à y vivre, etc. Donc d'habiter la catastrophe et de survivre tant bien que mal. J'ai pensé à une intervention que j'ai écoutée il n'y a pas longtemps de Thierry Ribaud, je pense que ça s'appelle, c'est un sociologue au CNRS qui a écrit un livre qui s'appelle « Contre la résilience », où il travaille sur ce qui s'est passé après Fukushima au Japon. Et il raconte comment l'État va organiser toute une série de procédures et de dispositifs qui incitent les habitants et les habitantes à aller habiter à nouveau sur ces territoires et parfois équipés avec des relévateurs de radiation. Et donc... il incite à la résilience quelque part. Il incite, ça devient une forme de un dispositif du haut que le gouvernement suggère, encourage, etc. En minimisant, en réduisant la perception des dangers, etc. Les risques. Et donc tout son travail de recomposition de cette situation vise à remettre en discussion cette attitude d'adaptation, d'acceptation du risque de la crise, en disant en fait on nous inscrit dans et on s'inscrit nous-mêmes dans des cohabitations avec le risque, etc. Et donc d'acceptation d'une série de systèmes industriels, par exemple, qui nous empêche chaque fois de remonter en amont de la nuisance, en fait. Et donc voilà, ma réaction et question est quel est ton regard sur ça, sur ces questions des critiques de la résilience quand tu parlais de bio-indicateurs, je pensais à un livre qui est sorti récemment, dont je parlais avec Jérémy il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « Nous ne sommes pas seuls », sorti à la collection Anthropocène du Seuil, où il parle de bio-indicateurs, mais dans une optique militante. Et donc, comment les bio-indicateurs, ce n'est pas juste pour produire une connaissance, donc on sait que ça s'est pollué, ça ne s'est pas pollué, ou qu'il y a tel phénomène à cet endroit-là, mais on en fait quelque chose qui enclenche, qui est le support d'une enquête, mais qui débouche sur une action politique. Une action politique dont la visée, évidemment, est de démonter, de démanteler la source de la nuisance. Voilà.
Merci pour cette question. La question de l'adaptation, effectivement, je me la suis beaucoup posée en connaissant les critiques, notamment de Ribot et son travail sur Fukushima. Mais en même temps, j'ai été confrontée à cette difficulté, c'est que si on a des habitants attachés qui ne veulent pas partir, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on s'intéresse à... Et on enquête sur les manières d'habiter ces territoires sans normaliser la pollution. Il faut la dire, il faut la mettre en récit, voilà, il y a toutes ces formes qui finalement organisent cette contre-surveillance qui est nécessaire. Mais en même temps, c'est la conclusion de José Matias à la fin du film. Je disais, dans un premier temps, il a alerté les territoires, les pouvoirs publics, et même lui, dans sa vision, ces territoires-là ne sont plus habitables. Et il a été menacé par des habitants qui ont dit « Mais non, tu vas nous faire chasser de là, on ne veut pas partir. » Et il a fait évoluer sa réflexion. Il a travaillé notamment avec des architectes en disant que ça serait très bien de sceller les dépôts de résidus parce que c'est ça qu'il faudrait faire. Seulement, c'est immense, ça fait 10 km² de résidus. C'est des sommes, on ne sait même pas qui va payer, qui va le faire. Et les gens continuent à habiter ici, dans ces lieux-là. Comment on rend les espaces habités moins perméables, moins vulnérables aux résidus ? Et il propose alors ça peut paraître dérisoire, mais pour des gens qui vivent là tous les jours, c'est des vraies questions au quotidien d'avoir des fenêtres un peu plus étanches. Lui, il a travaillé avec un architecte pour justement bétonner la cour de l'école. C'était de la terre battue et donc c'était du résidu. Là, ils ont bétonné... Et ils ont un système d'aspersion qui, après les coups de vent, permet d'évacuer les poussières pour que les enfants soient moins directement... parce que sinon, l'école a fermé. Donc, on se retrouve toujours dans des arbitrages compliqués. Et il a essayé de développer des idées pour quand même fournir des pistes de sortie, des pistes de solutions, pas de sortie du territoire, mais de sortir d'une situation entièrement funeste. Et moi ça m'a interrogée. On peut avoir cette approche encore justice environnementale en se disant c'est des lieux de relégation, c'est des points noirs de pollution, comme s'il n'y en avait pas ailleurs. Et quelque part, ça nous donne aussi bonne conscience. Mais en même temps, quelles sont les solutions concrètes qu'on propose aux gens qui habitent ces territoires, d'autant qu'eux inventent des solutions. Quand j'ai travaillé avec les pêcheurs, par exemple, ils m'ont dit, on a arrêté de pêcher telle ou telle espèce parce que c'est une espèce de fond qui est dans les sédiments et on sait qu'elle est plus exposée. Ou on a arrêté de cueillir les champignons, ou on va les cueillir, de temps en temps, on va en Lozère et puis on va cueillir des champignons. Bon, il y a tout un tas de stratégies d'évitement pour réduire les expositions qui, à mon sens, devraient être mieux investiguées pour informer les politiques de gestion du risque qui, pour le moment, c'est soit on interdit, soit on ne fait rien. En dessous du seuil, on ne fait rien. Au-dessus du seuil, on interdit. Et on ne va même pas vérifier si les interdictions sont respectées. Donc, je comprends les critiques de Ribot et autres. Et en même temps, je trouve que c'est un peu une critique complètement hors sol pour ces territoires-là, où les habitants ont envie d'habiter. Et je pense aux travaux de Sophie Houdard aussi, qui travaille sur Fukushima et qui s'intéresse à des personnes, par exemple, qui retournent dans la zone contaminée, même si elles la réhabiteront jamais, pour prendre soin de ces territoires qui... C'est la terre des ancêtres, etc. Il y a une forme d'obligation. Et dans le Caire, ça, je le prends chez Maria Puig de la Bella Casa, c'est que le Caire, ce n'est pas forcément innocent, ce n'est pas toujours plein de bonnes intentions. Ça peut étouffer, ça peut nous induire à faire des choses qui sont malencontreuses aussi. Et ça comporte des obligations. On est obligé à aller entretenir ce territoire, à rester là, malgré. Et moi, je pense qu'on doit plutôt apprendre des situations et décider avec les gens pour court-circuiter ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est ces stratégies d'appel à la résilience descendante. C'est ça qui est complètement condamnable. Et au contraire, pour faire émerger d'autres modes plus ascendantes, du coup, de réflexion sur comment on habite ces territoires qui en plus s'étendent bien au-delà des frontières administratives.